Saviez-vous qu'il existe une minuscule frontière de seulement 17 km qui sépare la Russie de la Corée du Nord ?
Une frontière qui les sépare, ou plutôt qui les rapproche, tout comme leurs soldats, qui se battent désormais côte à côte sur le front ukrainien. Loin du champ de bataille, ce conflit est aussi une guerre agricole entre deux greniers à blé. Et l'agriculture, oui, c'est aussi une arme.
Et une autre arme, nouvelle et massive, c'est aussi la puissance de calcul. Elle devient, vous allez le voir, déterminante sur le champ de bataille.
4 ans après l'invasion russe de l'Ukraine, voilà quelques leçons tirées du conflit.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Bonjour et bienvenue dans votre podcast géopolitique L'ordre du monde. Annalisa, pour commencer l'alliance de la semaine, pour cette spéciale 4 ans de guerre en Ukraine, tu vas nous parler du rapprochement entre Pyongyang et Moscou.
Oui, c'est le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord. On n'en aurait pas parlé si on n'avait pas eu cette invasion russe de l'Ukraine il y a 4 ans. Les choses se seraient sans doute passées différemment. Pourtant, aujourd'hui, cette alliance est une réalité à tel point que Pyongyang joue une partie de sa propagande sur cette alliance avec la Russie. Vous avez sans doute vu passer les images il y a quelques jours du Nord-Coréen Kim Jong-un qui a inauguré tout un nouveau quartier résidentiel à Pyongyang, donc au cœur de la capitale, un quartier résidentiel qui est dédié aux jeunes martyrs, les jeunes martyrs qui ont tout sacrifié pour la patrie, je cite Kim. Et évidemment, c'est un quartier résidentiel qui est dédié aux familles des victimes, donc aux femmes, aux enfants des soldats nord-coréens qui sont allés se battre en Ukraine et qui sont morts sur le front ukrainien. Donc il a beaucoup joué là-dessus.
On voit les images là pour ceux qui nous regardent avec Kim Jong-un et sa chapka qui est en train d'inaugurer. On va t'entendre, on comprend bien que finalement cette guerre en Ukraine, elle rentre dans le récit national raconté par le grand leader Kim Jong-un sur place.
Exactement.
Pourquoi aussi ? Parce que j'imagine qu'il y a un bilan humain qui doit être assez lourd. Là, il fournit ses hommes à Vladimir Poutine.
C'est ça, sur un conflit dans lequel il n'a en réalité absolument rien à voir. Donc il faut évidemment aussi justifier toutes ces pertes humaines qui sont évidemment difficiles à accepter. Et alors, c'est très difficile de savoir exactement combien de soldats nord-coréens sont partis se battre en Ukraine. On estime qu'il y en a eu 14 000 à peu près et que 6 000 sont déjà décédés pendant les combats. Donc, c'est un bilan humain.
Ça, je crois que c'est selon le renseignement sud-coréen qui a apporté ces chiffres. Oui. Hein, et tu as raison de les mettre au conditionnel aussi. Et puis, en plus, ça nous rappelle aussi que sur place, il y a une nouveauté dans la doctrine militaire. C'est la guerre des drones. Et on sait qu'aujourd'hui, les bataillons, les fantassins qui viennent sur place, sur le front, sur le champ de bataille, ça devient de la chair à drone. Et je crois que justement, les soldats nord-coréens dont tu parles sont devenus de la chair à drone.
Effectivement. Donc, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui dans les médias européens, occidentaux en tout cas. Compliqué de savoir les informations qu'on a côté nord-coréen, comme toujours. Mais voilà, les dernières informations qu'on a sur les soldats nord-coréens, c'est qu'ils seraient stationnés surtout en ce moment à Koursk, donc côté russe, tu sais, dans l'oblast de Koursk, qui est en fait du côté russe, près de Soumy. Et donc voilà, c'est
J'ai entendu qu'ils avaient joué un rôle déterminant dans la prise de Koursk, d'ailleurs.
Ouais. Effectivement.
Et alors, dis-moi, c'est quoi l'intérêt, finalement, pour Kim Jong-un d'envoyer hommes et matériel à Vladimir Poutine?
Oui, dans un conflit a priori très très loin de lui, mais aller combattre en Ukraine, ça permet aux troupes nord-coréennes d'avoir un peu d'expérience de combat moderne pour ceux qui y résistent, pour ceux qui rentrent, et d'avoir un soutien technique russe. Donc c'est aussi une manière de mettre à l'épreuve une armée que Kim Jong-un voudrait efficace, moderne et prête à faire face à un éventuel conflit, aussi pour matcher avec sa stratégie, non, qui est celle de se définir comme une grande puissance qui a tout à fait le droit d'exister. Et puis, il y a un autre atout majeur de cette guerre pour Kim Jong-un, c'est que ça lui permet de se rapprocher davantage de la Russie et donc de se libérer un tout petit peu de la Chine, puisqu'on sait que la Corée du Nord est encerclée, elle est très isolée sur la scène internationale, et donc que les Nord-Coréens sont obligés en fait de beaucoup s'appuyer sur la Chine. On parle du point de vue commercial d'une dépendance quasi totale, hein, entre 95 et 98% des biens importés par la Corée du Nord viennent de Chine, donc ça permet aussi à Kim Jong-un d'avoir un nouvel allié qui est très très précieux pour un régime qui est presque encerclé sinon.
Et ça, comment est-ce qu'il le voit, justement, Xi Jinping? J'imagine qu'il ne doit pas le voir forcément d'un bon œil, ce rapprochement entre deux régimes qui sont d'ailleurs tous les deux soumis aux sanctions occidentales.
Voilà, exactement. Non, Xi Jinping n'est pas enthousiaste pour l'instant, mais il laisse faire. Disons que Pékin aimerait plutôt garder le contrôle dans ses relations avec ses partenaires. Bah oui, évidemment, mais surtout éviter les liens trop resserrés entre Moscou et entre Pyongyang. Surtout que la relation en ce moment, elle est asymétrique dans les deux sens. Tu sais, la Chine a une position de force par rapport à la Russie, parce que les Russes ont besoin des Chinois pour vendre leurs hydrocarbures. Et en ce moment, les Nord-Coréens ont besoin de la Chine tout simplement pour survivre. Donc Pékin aimerait bien garder cette position de force et éviter un rapprochement entre les deux. D'ailleurs, tu te rappelles du grand défilé militaire de Xi Jinping? C'était à l'occasion de la fin
Ah ouais, ça avait sidéré le monde entier. Oui. Je me rappelle, les états-majors du monde entier, ils avaient découvert même un missile balistique nouveau qui avait médusé tous les états-majors du monde.
Et c'était en fait à la fin pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Ouais. Donc en Europe, les commémorations avaient eu lieu au début du mois de mai, et en Asie, ça avait été à l'automne, tout début septembre. Et c'est là qu'on avait vu les trois s'afficher ensemble. On avait vu Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Xi Jinping côte à côte. Donald Trump avait dit qu'ils étaient en train de conspirer. C'était une espèce d'axe du mal. Mais voilà, ça avait commencé là, cette nouvelle formule avec un trio et non plus avec deux duos différents. Xi Jinping, pour l'instant, il en joue. On va voir ce qu'il fait après, parce que ce n'est pas certain qu'il continue d'aimer ce rapprochement entre ouais. Pyongyang et Moscou.
Et alors, moi, c'est intéressant, parce que j'aimerais bien rester sur le même terrain que toi. Tu nous parles de rapprochement entre Pyongyang et Moscou, mais moi, j'aimerais bien revenir aussi sur un rapprochement de toute façon qui est naturel entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il est géographique. Et ça, j'aimerais bien, pour ceux qui nous regardent, vous montrer là où je vais t'emmener, Annalisa. Si tu pars du ciel, tu vois la mer du Japon. D'un côté, tu as la Russie. De l'autre côté, tu as la Corée du Nord. Et là, tu vois un fleuve qui s'appelle le fleuve Tumen. Et en fait, le long de ce fleuve Tumen, tu as une frontière de 17 kilomètres où se touchent la Russie et la Corée du Nord. Il y a juste le fleuve entre les deux. Et je voulais te le montrer parce que c'est hyper intéressant.
C'est minuscule, mais ça existe.
Voilà. Et tu vois, je t'ai mis en fait en jaune un pont routier qui est en construction. Ça, comment je le sais? C'est grâce à un think tank de défense, le think tank CSIS. Et en fait, ce think tank a mis en ligne, a posté des photos satellites. Ça, c'était en octobre dernier. C'est hyper intéressant, ça, parce que on peut voir côté Corée du Nord, sur cette image satellite, un pilier de pont, et on voit différents rondins. En fait, il s'agit d'excavations pour des pieux de soutien aux piliers. Et donc, on voit une route qui est en train d'être construite. Et si jamais il y a une autre photo qu'ils ont postée, ça nous permet d'élargir un peu la focale. Et à ce moment-là, tu peux voir qu'en fait, il s'agit d'une énorme zone de chantier en ce moment. Qui touche la Russie et la Corée du Nord. Tu vois que côté russe, on a une route qui est en construction. Tu vois même qu'il y a un héliport. On voit donc notre pont routier qui, lui, est en construction. On voit même, cette fois, Corée du Nord, côté Corée du Nord, une nouvelle usine qui est sortie de terre, et puis un nouveau poste frontière en construction. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça nous dit plusieurs choses. Déjà, ce qui est fascinant, c'est que ce serait la première vraie route directe carrossable entre la Russie et la Corée du Nord. Les deux pays, ils vendent ça comme un projet de développement. Ils disent que ça va permettre entre Russie et Corée du Nord d'avoir plus de tourisme, plus d'échanges et plus de camions. Mais en fait, on voit bien que dans la réalité, ça va être une artère logistique va servir, comme tu le rappelais, à soutenir deux régimes qui sont en ce moment sous les sanctions occidentales.
Donc effectivement, tout ça, ça nous dit une fois de plus qu'aujourd'hui, la Corée du Nord est le principal allié opérationnel.
Oui, c'est le principal allié opérationnel, et en fait, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. J'aimerais te remonter la photo satellite de CSIS, parce qu'il y a notre pont en construction, mais tu peux voir, pour ceux qui sont avec nous sur YouTube, tu peux voir juste à côté, là on est à moins d'un kilomètre, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un pont ferroviaire. Ce pont-là, pareil, je l'ai découvert avec ces photos satellites.
Donc il existe celui-là, qui est déjà construit.
Il existe. En fait, c'est un pont ferroviaire qui date de 1959. Et à l'époque, tu as en fait l'Union soviétique et la Corée du Nord qui l'avaient baptisé le pont de l'amitié. ça voulait être un corridor. C'est joli. joli. Hein. Bah,
il y a beaucoup cette notion d'amitié dans les relations
c'est
asiatiques.
C'est poétique, ça va dans l'imaginaire, tu vois. Et en fait, ça voulait être un corridor direct vers Pyongyang pour ancrer la présence russe en Asie du Sud-Est. Et surtout, ça permettait à la Russie d'acheminer vers la Corée du Nord beaucoup de charbon, beaucoup d'acier, beaucoup d'armes, mais aussi des céréales dont tu nous parleras, je crois, un peu plus tard.
Oui, en effet.
En fait, longtemps, ce pont ferroviaire, il est resté très discret. Après, on l'a presque tous totalement oublié. Mais l'autre chose qui est aussi assez fascinante en ce moment, et on le sait grâce au think tank CSIS, c'est que depuis 2023, les photos satellites te montrent qu'il y a un regain d'activité sur ce pont ferroviaire. Et donc, on voit énormément de wagons-citernes qui passent, qui vont, qui viennent. Et donc, ça montre en fait cette activité qui reprend sur ce vieux pont de l'amitié. Et d'ailleurs, tous ces wagons-citernes dont je te parlais, ils servaient à acheminer surtout des hommes et du matériel. Ça, le matériel militaire nord-coréen vers la Russie, c'est essentiel. Il faut savoir qu'il y a 4 millions d'obus nord-coréens qui ont été livrés à la Russie. 4 millions, c'est deux fois la production annuelle d'obus en Russie. Et que plus de la moitié, ça c'est selon les renseignements sud-coréens, plus de la moitié des munitions tirées en Ukraine, elles proviennent désormais d'où ? De Corée du Nord.
Voilà. Donc ils ne leur fournissent pas seulement des hommes, ils leur fournissent aussi beaucoup d'armes.
C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, pour revenir toi, sur l'inauguration des logements pour les familles, il y a aussi Kim Jong-un, qui pour la première fois en avril dernier, il reconnaissait donc, l'envoi des soldats en Ukraine, et il a annoncé qu'il allait mettre en place une stèle, en fait un monument aux morts pour les soldats nord-coréens. Et début janvier 2026, il a même visité le chantier de ce futur mémorial. Il parle d'un sanctuaire sacré.
Donc, voilà, symbole encore.
Encore le symbole. Il y a les logements, mais il y a aussi le monument aux morts avec tout ce récit national des soldats nord-coréens qui se sacrifient pour le voisin russe.
Pour l'ami russe, pour le pont de l'amitié.
Exactement, pour l'ami russe. On va rester pour ces 4 ans hein, d'invasion russe en Ukraine. On voulait avec Annalisa vous donner quelques éléments qu'on trouvait un peu spectaculaires, dont on ne parle pas forcément tous les jours à l'occasion de ces 4 ans. Tu voulais aussi nous parler d'un champ dont on parle moins, c'est le cas de le dire, c'est celui de l'agriculture.
Oui, parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est aussi et surtout une guerre entre deux puissances agricoles. En 2021, donc juste avant la guerre, elles étaient toutes les deux parmi les premiers exportateurs mondiaux de blé, d'orge, de maïs, de colza, d'huile de colza, de graines de tournesol, il y a les engrais, bref, tu vois, c'est un enjeu de sécurité alimentaire, évidemment, immense. Et si je t'en parle, c'est parce que j'ai lu un livre, mais je pense que tu m'as vu avec, parce que ça fait
Ça fait 2 semaines que je le vois traîner au bureau, voilà. Son bureau, c'est et à chaque fois, il le montre à tout le monde.
Voilà, donc c'est le livre Russie-Ukraine, la guerre hybride, qui a été écrit par Sébastien Abyss, Arthur Portier et Thierry Pouche.
Et qui nous rappelle à quel point la Russie, c'est un monstre agricole, quoi.
C'est immense. Et d'ailleurs, la Russie, aujourd'hui, est beaucoup plus puissante que l'Ukraine sur ce point-là, donc ça crée un vrai déséquilibre entre ces deux puissances agricoles.
Parce que c'est vrai que l'Ukraine, on dit toujours le grenier à blé de l'Europe, etc.
T'as raison. Mais la Russie, sur ce point, elle est beaucoup plus puissante. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie bien précise de la part de Poutine, qui avait compris à quel point l'agriculture était essentielle pour la Russie, pour une stratégie européenne. Et donc, depuis le début des années 2000, il a choisi de réarmer son agriculture. C'est l'expression qu'utilise ce livre. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. Il y a toute une stratégie derrière. Il y a des investissements, il y a le contrôle des exports. Il y a toute une stratégie diplomatique très intéressante mise en place par Poutine pour devenir un vrai géant des exportations
agricoles.
Surtout
qu'on sait que Vladimir Poutine, hein, il entretient ce récit et on sent qu'il a la nostalgie de l'Union soviétique. Qui veut recréer l'empire éclaté.
Exactement.
Mais derrière, à t'entendre, on voit aussi que d'un point de vue peut-être plus pragmatique et opportuniste, il veut aussi mettre la main sur les sous-sols agricoles du voisin ukrainien.
Mais d'ailleurs, c'est super pragmatique. Tu te rappelles quand il a utilisé les engrais, un peu à la manière des droits de douane de Donald Trump, non ? Comme une arme. Voilà, si vous, les Européens, vous ne me donnez pas ce que je veux, ben, moi, je bloque l'exportation d'engrais. C'était des droits de douane avant l'heure, finalement. C'était très très pragmatique. Tout ce que l'Ukraine n'a pas fait, l'Ukraine qui était en pleine construction, reconstruction après l'indépendance, donc voilà, elle était avec une situation de blocage interne, avec de la corruption parfois, donc l'Ukraine n'est pas devenue le géant agricole, elle n'exploite pas sa richesse agricole autant qu'elle le pourrait. Donc vous voyez, le résultat, c'est qu'on a une bataille agricole dans la bataille militaire. Les deux sont indissolubles.
C'est ça, et tu as raison de le rappeler, hein, l'agriculture qui est devenue un enjeu, tout comme la pharmacie, un enjeu de souveraineté pour chaque nation au niveau du monde. Et on voit que chacun essaye de sécuriser le potentiel qu'il a sur ces sujets.
Et d'ailleurs, c'est là tout le débat. Est-ce qu'on intègre l'Ukraine à l'Union européenne une fois que le conflit sera fini? Puisque si on intègre l'Ukraine à l'Union européenne, il y a évidemment une question de concurrence interne, non, par rapport à nos agriculteurs à nous, aux Français, aux Polonais, aux Italiens. Ouais. Donc, évidemment, tu te rappelles du débat sur le poulet ukrainien, ça crée des déséquilibres au sein même de la PAC.
En fait, ce serait hyper cohérent, mais ça voudrait dire qu'on aurait le grenier à blé ukrainien qui déferlerait sur le marché unique. Quoi.
Et en même temps, si on ne les intègre pas, ça veut dire qu'on a un immense concurrent qu'on a subventionné et aidé. Et c'est normal pendant des années pour le conflit contre la Russie. Et on a un immense concurrent juste à côté qui intéresse bien évidemment d'autres États.
Et en même temps, et à l'heure des empires, il faut peut-être aussi qu'on change d'échelle et penser au niveau européen.
Exactement, ça intéresse les États-Unis, ça intéresse la Chine, donc tu vois bien que c'est toute une question très compliquée. Et Mathieu, toi, pour ton choix, tu nous parles, donc l'agriculture est une arme, mais il y a aussi d'autres armes moins conventionnelles sur le terrain.
Il y a d'autres armes moins conventionnelles. Moi, je voulais te parler d'un document que j'ai trouvé vraiment spectaculaire. C'est un document de plusieurs pages qui a été écrit par l'ancien chef d'état-major des armées russes. Il s'appelle Yuri Balwevski et en fait c'est un document qui a été traduit en entier dans la revue géopolitique Le Grand Continent et il a été publié dans une revue qui est liée au Kremlin qui s'appelle Russia in Global Affairs. Et en fait ce document est passionnant parce que il relate, cet ancien chef d'état-major des armées, les enseignements qu'il tire de 4 ans de guerre en Ukraine. Et donc ce qu'il nous dit, c'est que déjà il y a un avant et un après par rapport à toutes les doctrines militaires classiques. En fait, il formule une nouvelle doctrine en disant qu'au cœur de cette doctrine, il y a les drones qui ont changé la donne. Hein. Désormais, les drones, donc ils sont autonomes, ils repèrent tout, ils percent tout très loin sur la ligne de front. Et donc, aujourd'hui, une ligne de front avec les drones connectés, on le disait tout à l'heure, les hommes, les bataillons, ça devient de la chair à drone. 70% des pertes humaines, rappelle-t-il, russes, sont dues aux drones. Et donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que l'armée, désormais, qui prendra le dessus sur une autre, c'est celle qui aura le plus de drones. C'est aussi pour ça que Poutine a inauguré, il y a quelques mois, ce qui serait la plus grande usine de production de drones. Mmh. C'est au fin fond du Tatarstan. Et c'est une usine qui produit des drones de type Shahed, d'inspiration iranienne, qui ne coûtent pas cher et qui vont très très loin. Donc, en fait, voilà, impossible de se cacher sur la ligne de front. Le champ de bataille est totalement transparent. Et ce qu'il nous dit, c'est que le bon vieux char traditionnel, finalement, il est devenu trop léger, trop visible et qu'il n'est plus du tout efficace. Il faut vraiment revoir son logiciel guerrier.
En fait, c'est plus du tout la même guerre. Bon, évidemment, ce n'est plus la même guerre que la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est plus la même guerre qu'on pouvait faire il y a 20 ans.
C'est terminé. Désormais, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut être totalement décentralisé. C'est-à-dire que les commandements, pour lui, il faut des tout petits commandements qui soient éclatés partout sur le terrain. Oui. Okay, donc, pour être agile, pour être connecté. Pour lui, ce qui change la donne, c'est les essaims de drones qui sont connectés. Face à ça, il faut mettre en place des unités qui sont minuscules. Te parle de plein d'unités.
Minuscules, c'est combien de personnes?
2 à 4 soldats. 2 à 4 soldats maximum. Le fantassin, désormais, il doit être équipé, il doit être d'équipement hyper léger et de brouilleurs de drones. Donc on rentre dans la guerre électronique. Pour lui, l'armée du futur, elle doit être moins cloisonnée, elle doit être polyvalente, elle doit être beaucoup plus agile. Et donc je le cite, ce chef d'état-major des armées, il dit que l'ère des grands bataillons qui a hérité de notre révolution industrielle, cette ère-là, elle est bel et bien terminée.
Et alors, je vais te parler d'une de tes obsessions, parce que moi, j'ai les miennes, mais toi, tu as les tiennes. C'est la puissance de calcul.
Là, je vous envoie du rêve. Hein. Passion, puissance de calcul.
Je sais.
Mais en fait,
c'est vrai que ça t'intéresse beaucoup.
Oui, mais parce que ça aussi, c'est un truc qui change totalement la donne. Ce qu'il nous dit, l'ancien chef d'état-major des armées russes, c'est que c'est devenu, cette puissance de calcul, le nerf de la guerre. Pour lui, la puissance de calcul, via l'intelligence artificielle, elle va permettre de créer des systèmes qui vont être capables d'identifier, de frapper toutes les menaces à une vitesse et une précision jamais vu jusqu'ici. C'est une révolution qui, selon lui, pourrait même remettre en cause tout l'équilibre qui est lié à la dissuasion nucléaire. Donc il y a vraiment, pour lui, l'armée qui aura le plus de puissance de calcul sera l'armée qui prendra le dessus sur l'autre. Et il met en garde le Kremlin, il met en garde les Russes en disant « Attention, si jamais la Russie prend du retard technologique et du retard sur la puissance de calcul, c'est carrément les intérêts stratégiques de la Russie qui seront menacés. Et donc finalement, c'est un sujet qui rejoint, si tu élargis un peu la focale, qui rejoint ce sujet de la course à l'IA que mènent actuellement la Chine et les États-Unis, qui chacun, qui sont les seuls à avoir les moyens de mettre le paquet, et qui chacun ont compris que celui qui sera le maître de l'IA sera le maître du monde, en gros.
C'est là que tout se joue sur les prochaines 10, 15... peut-être 20 prochaines années ?
Ouais, même moins, hein, je dirais. Là, c'est maintenant. En fait, on parle de guerre du futur, mais en fait, ça se joue maintenant.
La guerre du présent.
Vraiment, la rapidité avec laquelle cette bascule de doctrine militaire s'est opérée a surpris tous les états-majors du monde entier. Oui. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Pour terminer, on va vous... dans nos radars. Qu'est-ce que tu surveilles, toi, Annalisa ?
Écoute, je m'éloigne un peu de la ligne de front et je surveille, tiens, ça va te plaire, ça, l'oléoduc Druzhba, qui est l'oléoduc...
Wow, tu parles à mon petit cœur.
qui relie la Russie à la Hongrie. Pourquoi je t'en parle ? Parce que cette semaine, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, est parti à Budapest pour soutenir Orban, qui est en difficulté dans les élections. Et il a évidemment promis l'aide des États-Unis sur plusieurs sujets, mais surtout il a choisi de maintenir l'exception hongroise sur le pétrole russe. Pourquoi ? Parce que la Hongrie et la Slovaquie sont les deux seuls pays autorisés, je mets beaucoup de guillemets, autorisés par les États-Unis à acheter du pétrole russe. Pourquoi ? Bon, déjà, c'est des alliés de Donald Trump, donc quelque part, ils ont un petit peu cette exception d'amitié, là encore. Et puis, parce que Donald Trump a estimé qu'ils sont trop dépendants, au vu de leur position, trop dépendants du pétrole russe pour pouvoir s'en détacher rapidement. Sauf que la Hongrie, non seulement elle n'a pas réduit ses importations de pétrole russe, mais elle les a augmentées, justement, par le biais de cet oléoduc Druzhba. Donc, elle importait 61% de pétrole russe avant le début de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, elle importe 92% de son pétrole. Donc voilà, le problème étant que la Hongrie a cet oléoduc qui vient de Russie, mais en même temps, elle a aussi accès à un autre oléoduc qui est l'oléoduc Adria, qui lui traverse la Croatie et qui achemine du pétrole non russe depuis la côte adriatique. Donc c'est un choix de Budapest, un choix politique. Effectivement, il y a encore du pétrole russe qui arrive, mais pendant combien de temps encore Donald Trump va tolérer ça, laisser passer ça ? Voilà, il faut regarder parce que c'est peut-être une autre porte qui se ferme pour la Russie qui pourrait ne plus vendre son pétrole à la Hongrie, donc elle aurait encore moins de clients pour son pétrole.
À surveiller.
Et toi, qu'est-ce que tu surveilles ?
Moi, je surveille un discours ultra stratégique, peut-être le plus stratégique de tous les discours qui existent, c'est le discours sur la dissuasion nucléaire. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des discours qui sont très rares. Le dernier qu'a fait Emmanuel Macron, c'était en 2020. Et là, ils ont annoncé qu'il allait prononcer un nouveau discours sur la dissuasion nucléaire, sur la doctrine nucléaire française. Ça va être fin février ou peut-être début mars, parce qu'on sait que début mars, il va se rendre à l'île Longue. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez voir cette photo d'un sous-marin nucléaire. L'île Longue, c'est l'endroit en France qui abrite les sous-marins nucléaires, éléments de souveraineté suprême. Et donc là, ce qu'on va guetter, c'est les mots que va choisir Emmanuel Macron, parce que ce discours très rare de dissuasion nucléaire, il se passe dans un contexte très particulier. On en parle assez régulièrement. On voit que les États-Unis sous Donald Trump ont acté qu'ils allaient se désengager peu à peu de l'Europe. Et en fait, ce qui se joue, c'est que tu as aujourd'hui une grande majorité des pays européens qui sont au niveau sécuritaire, sont abrités sous le parapluie nucléaire américain dans le cadre de l'OTAN.
Ouais, okay. Mais qui n'est plus aujourd'hui.
Ce parapluie-là, il commence à se refermer petit à petit. Oui. On voit que le partenaire devient moins fiable. On voit que les États-Unis disent « soyez plus autonomes ». Là-dessus, dans l'Union européenne, la France est le seul à disposer est une exception de l'arme nucléaire et assure sa propre sécurité et sa propre dissuasion là-dessus. Donc l'idée serait que, au fur et à mesure que le parapluie américain se resserre, le parapluie français s'ouvre un peu plus par rapport aux autres pays européens. Mais c'est un enjeu qui est hyper sensible et on le voit bien quand tu entends par exemple le chancelier allemand Friedrich Merz qui commence à dire que lui il n'a pas envie sur le principe de se retrouver d'avoir ça la sécurité de son pays qui dépend que d'un seul autre pays en particulier la France. Il aimerait que la doctrine de dissuasion nucléaire reste dans le cadre de l'OTAN. Tu vois ce que je veux dire ? Donc est-ce que ça peut être avec la France dans le cadre de l'OTAN ou pas ? Ça je ne sais pas. Après on arrive, c'est pour ça que le choix des mots va être vraiment très important à surveiller.
On surveille la date et puis on surveille ce discours.
Voilà.
C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Mathieu.
Avec grand plaisir. L'ordre du monde, c'est déjà terminé. On est, et n'hésitez pas à nous écrire. Envoyez-nous des petits messages. Dites-nous quel point cartographique vous voulez qu'on explore pour vous. Quelles alliances aussi stratégiques vous voulez qu'on décrypte.
Et vous pouvez nous suivre, nous regarder sur YouTube, sur l'application BFM Business, sur l'application BFM tout court, sur notre site et évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Donc vous n'hésitez pas et puis on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.
Avec plaisir. Salut Annalisa.
Salut,
au revoir
Mathieu.
À tous.